Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ah, ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler?
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Où,
j'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonjour, bonsoir, bienvenue à Cour d'honneur, saison 4, épisode 6. Et oui, c'est bien une voix féminine que vous entendez ce soir parce que c'est moi, Swan, qui s'adresse à vous. Pas de pression, même si j'impressionne, ayez plutôt de la passion pour notre émission, surtout qu'elle sera bien plus claire sans la voix grave de Thomas, que j'ai relégué au second plan, pas de pitié parce qu'il est aux anges. On se pose toujours cette même question, c'est quoi être étudiant à la Sorbonne? Parce que c'est pas easy quand même, surtout en cette période d'examen. Votre magazine préféré d'infos et de culture qui fait le tour de la Sorbonne et de ses campus, c'est un mercredi sur deux sur Radio Sorbonne Université, un samedi sur deux sur Radio Campus Paris. Alors, voilà, je vous promets du débat.
Votre volonté de démontrer l'indémontrable, vous mentez.
Ça vous reprend. Ça y est, c'est décidément
je vais vous le dire.
Un leitmotiv qui devrait pour moi être insupportable, mais qui, dans votre bouche, finit par être une habitude.
Du cinéma.
La télévision fabrique de l'oubli. Fabrique de l'oubli. Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Et surtout du love.
Fais-moi l'amour.
Non, je ne crois pas, non.
Pourquoi?
Pas envie.
Et dans notre superbe équipe qui s'adresse à vous ce soir, on retrouve Chirine. Hello, hello.
Hello. Alors moi, ce soir, je vais vous parler sexe avec l'édito et violence sexuelle avec le reportage.
Ouh, on retrouve Lavinia aussi.
Hello, hello. Alors, toujours dans la même lignée, ce soir, je vais vous montrer un micro-trottoir sur l'éventuelle conciliation entre porno et féminisme.
Ainsi qu'Alice. Bonsoir, Alice.
Mais bonjour. Alors, moi, je vous ai concocté une petite sélection des 5 films qui me font de l'œil à aller voir au cinéma en ce moment. Je sais que vous avez hâte.
Aurélie.
Coucou. Alors, moi, ce soir, je vais vous parler d'un grand réalisateur qui est passé par les couloirs de la Sorbonne.
Maria.
Salut tout le monde, ce soir je vais vous présenter une petite histoire d'amour entre Sarah Guillaume avec Sorbonne in Love.
On a hâte, et bien sûr Thomas qui m'a laissé la place pour s'installer confortablement derrière sa table de mixage.
Wouhou, c'est les vacances, ça y est c'est bon, moi je peux enfin vous regarder travailler.
Voilà, sacré DJ. Tu sois en train de nous écouter dans le métro bruyant dans ton appart avec un café ou une tisane selon l'heure ou en plein CM parce que tu t'ennuies, bienvenue dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Et pour bien commencer, on se met dans l'ambiance avec la carte blanche, l'édito de Radio Sorbonne.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, c'est vraiment ici.
Carte blanche.
C'est Chirine qui ouvre le bal. Elle parle sexe ce soir. Elle est venue taper sur les doigts des réactionnaires qui sont visiblement plus que contradictoires sur la question « preuve à l'appui ».
Oui, en effet, vous n'êtes pas sans savoir que l'Assemblée nationale est un grand capharnaüm actuellement. Et je ne parle pas de 49-3 ni de motion de censure. Non, non, je parle des débats inutiles, voire même absurdes, sur la question de l'éducation sexuelle à l'école. D'un côté, il y a ceux qui sont en faveur et qui prônent la prévention, la sensibilisation ou l'apprentissage de la notion du consentement. Et de l'autre, il y a les réacs. Ce sont souvent de gros boomers ou alors de soi-disant essayistes qui ont tendance à errer matin, midi, soir sur les plateaux télévisés, des chaînes d'infos, entre guillemets. Et il y a aussi des parents qui sont contraints, des parents réacs. Les mêmes parents qui prônent le réarmement démographique, pas savoir, on en parlait d'ailleurs il y a 2 semaines, on parle un peu trop de reproduction dans cette émission. Pour ces gens-là, c'est le rôle des parents de parler sexualité avec leurs enfants et non pas le rôle des professeurs. Ils jugent également que le programme est inapproprié et que les thématiques enseignées ne conviennent pas à l'âge des enfants. Or, vous n'êtes pas sans savoir non plus que l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, a publié un rapport ce mois-ci, un rapport qui a beaucoup fait parler de lui, car la dernière étude similaire avait été publiée il y a 18 ans, en 2006, et que les évolutions sont colossales. Cette enquête, vous l'aurez compris, concerne la sexualité des Français. Elle a été menée en 2023 auprès de 30 000 Français entre 15 et 89 ans. Alors autant vous dire qu'elle est assez objective. J'ai donc établi un lien entre le programme lié à l'éducation sexuelle et ce rapport de l'INSERM. Et c'est drôle parce qu'on a vraiment l'impression que les deux sujets se répondent. Le rapport justifie le programme et le programme justifie le rapport, sans mauvais jeu de mots. On apprend par exemple que l'âge moyen du premier rapport sexuel d'une femme est de 18 ans. et de 17 ans pour les hommes. À cet âge-là, mesdames, messieurs, vos enfants sont encore des enfants, des adolescents certes, mais toujours au lycée. Il est donc nécessaire qu'ils soient un minimum informés des dangers et même tout simplement du fonctionnement hein, de leurs activités extrascolaires. Les chiffres montrent aussi une augmentation notable du nombre de partenaires. En 1992, au cours de leur vie, les femmes connaissaient une moyenne de 3,4 partenaires, passant à 7,9 partenaires en 2023. Pour les hommes, c'est presque le double, avec 16,4 partenaires en moyenne. Ce constat reflète donc l'importance cette fois-ci de la prévention des IST. Enfin, il est plus que nécessaire d'informer dès le plus jeune âge les enfants sur la notion du consentement. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Et peut-être que s'ils avaient eu des cours d'éducation sexuelle à l'école, ils auraient peut-être su que dire non, ce n'est pas que pour les adultes. Et oui, le monde évolue, la parole se libère, on est plus libre, moins tradit, plus ouvert. Car non, ce n'était pas mieux avant. Et non, le sexe n'est pas réservé aux trentenaires. C'est aussi et surtout un des sujets de prédilection de la jeunesse. Allez demander aux étudiants de la Sorbonne, hein, ils vous le diront.
Merci Chirine, vous écoutez Radio Sorbonne, il est 18h05. N'oubliez pas que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Pour certains, le porno reste un tabou, pour d'autres, son visionnage est pleinement assumé. Une chose est sûre, ce sujet ne laisse personne indifférent. Alors que le féminisme promeut l'image d'une femme libre et maîtresse de son corps, le porno, industrie colossale et plus accessible que jamais, continue souvent de la réduire à un objet de plaisir masculin. Peut-on donc réellement concilier porno et féminisme ? Pour répondre à cette question, Lavinia est allée à la rencontre des étudiants de la Sorbonne.
Oula, c'est un peu compliqué, sachant que souvent dans le porno, il a des actes qui sont un peu dégradants vis-à-vis des femmes, du coup vis-à-vis de tout ce qui est trigger warning, viol et compagnie. Mais après, je pense qu'il doit exister des réalisatrices femmes qui font justement du porno entre guillemets dit féministe. Mais après, le problème, c'est qu'il y a surtout cette idée de male gaze. Est-ce qu'elles font vraiment ça pour un regard masculin ou un regard féminin? Et aussi, comment les corps sont montrés, comment les actes sont montrés?
Enfin, je pense que c'est dégradant humainement dans le principe même de la pornographie, dans le sens où consomme le sexe qui devrait être quelque chose qui se vit à deux, sans regard extérieur. Je trouve ça un peu dégradant humainement. Voilà, tout simplement. Donc, femme ou homme, je trouve le principe pas fameux.
Oui, si c'est fait par des réalisateurs qui ont un regard et qui ont conscience du combat féministe, mais je pense que ça participe beaucoup à sexualiser le corps de la femme, notamment par le public qui le regarde et la manière dont on classe les profils et les femmes. Je trouve que c'est très industrialisé quand même comme regard. Et donc, ça participe à voir la femme comme un objet. Donc, je pense qu'en faisant très attention et en ayant conscience des enjeux féministes, c'est possible, mais avec un bon recul.
Ça dépend, soit oui, pourquoi pas, si les personnes sont libres, décident librement de savoir ce qu'elles veulent. Comme ça, il y a une autre question, c'est connaître la fin de l'action. Si elles font ça de façon libre parce que c'est ce qu'elles veulent faire, ou bien si on fait ça de manière à vouloir présenter une idée bornée de la femme, parce que le porno reste quand même une fiction et absolument faux. Et ce qui est aujourd'hui dans le gros problème avec Internet, c'est que les jeunes y ont accès et ont une image biaisée de ce qu'est l'amour, ce qu'est le sexe, ce que c'est que la femme en général. Parce qu'ils verront des top modèles alors qu'ils se rendent compte que la vie, c'est pas ça. C'est pas du réel, c'est pas vrai et ça montre un mauvais visage. Et ça réifie la femme, ça la met en tant que
maintenant, non, parce que vraiment c'est trop associé à de la violence. Mais je sais qu'il y a des sociétés de production qui font du porno féministe, donc je pense que ça existe, j'ai jamais regardé. Mais au premier abord, non, ça semble assez contradictoire.
J'avais déjà eu ce débat plusieurs fois avec des amis. Moi je suis pas pour l'interdiction de manière générale de la pornographie. Après c'est sûr que dans l'état actuel, elle est plein de biais qui sont très contraires au féminisme. Après, je pense que c'est pas irréconciliable.
Enfin, en tant que féministe, j'en regarde. Mais je sais très bien faire la différence entre justement les pratiques dans la vraie vie et les pratiques pornographiques qui sont pas du tout à reproduire, qui sont fausses. Et c'est juste un moyen personnel, mais pas du tout à faire rentrer dans le domaine de la lutte féministe. Mais je peux concilier la consommation avec mon féminisme en général. Voilà.
Alors, et vous mesdames, qu'est-ce que vous en pensez ? Plutôt féministe, plutôt porno ou les deux ?
Alors, je n'en regarde pas, mais c'est vrai que à première vue, on pourrait pas se dire que c'est le sujet. Enfin, la plateforme féministe, ah porno, tu penses pas à féminisme tout de suite. Mais bah, c'est un peu comme toutes les plateformes qui produisent du contenu, t'as de tout en fait. Et c'est à toi de concilier ce que tu regardes avec en fonction de tes opinions, quoi. Et justement, le problème du fait que ce soit une plateforme où il y a de tout, c'est que pour le coup, vraiment, t'as de tout. T'as du En fait, c'est ça. T'as du très problématique qui est très accessible. Et mais après, ça va vers le bon. T'as de plus en plus de porno écolo, de porno féministe. Mais c'est vrai que je pense que c'est. Je pense quand on est féministe, on va faire attention à ce qu'on regarde. Mais je pense qu'il y a plein de personnes qui font pas attention et qui justement sont habituées à regarder des contenus qui sont pas féministes. Du coup, vers le mieux, mais voilà quoi, pas féministe.
Mais moi, j'ai une question. Est-ce que vous considérez qu'il y a plein de. Enfin, quand tu dis. On peut vraiment trouver de tout, etc. T'as plein en fait de nouveaux formats maintenant qui sont audio par exemple et qui sont très centrés sur le fantasme, sur des trucs qui correspondent plus a priori à des besoins féminins. Alors est-ce que tu considères que c'est du porno ou pas ça toi ?
Oui, parce que ce qu'on disait pas en fait dans le micro-trottoir, c'est qu'on parlait avant tout de porno mainstream. Ouais. C'est ça qu'on.
Oui,
c'est
ça, ouais.
Difficile peut-être.
Si on parle de pornographie, bah, du coup c'est pas de la porno. Parce que la graphie, je crois que c'est image, mais c'est du, ouais. C'est du porno audio, quoi.
Parce et que ça, pour le coup, je trouve que c'est génial et c'est très féministe.
Alors ça, pour le coup, j'ai écouté, c'est cool.
Il y a Femtasy, par exemple. Ouais. Je lance un truc.
Et tu peux... Ouais, c'est... Déjà, t'as plein de représentations, genre t'as de la représentation queer, t'as de la représentation genre de ce que t'aimes, de... Enfin, il y a plein de trucs, c'est génial. Mais je pense que ça a été fait dans un point de vue plus féministe et ouvert. Enfin, de toute façon, toutes les causes un peu comme ça sont liées entre elles, représentation, féminisme et tout.
Je trouve aussi que le porno audio est bien plus efficace, on va dire, que certaines tentatives de créer un porno visuel qui soit en même temps complètement respectueux et aussi en renversant tout le dynamisme en fait qu'on a vu jusqu'à là dans le porno mainstream, parce qu'en fait pour moi le porno c'est un peu comme du fast food, les gens qui vont le consommer c'est pas les gens qui vont se dire ah je fais attention à mes valeurs nutritionnelles et à l'origine de la viande de mon burger, enfin on va dire que c'est pas le public cible. Donc là il y a comment on dit ça, une metteuse en scène, enfin une productrice qui s'appelle Erika Lust, suédoise, qui fait du porno féministe. Et j'ai regardé ça, du coup, pour m'informer pour le débat de ce soir. Et j'avoue que c'est intéressant, parce que quand on le regarde, moi...
C'est du porno pour préparer l'émission.
T'as pas du tout le même entraînement.
Mais oui, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, ça ferait une très belle exposition. Parce que c'est très artistique, je trouve. Mais vraiment, je me suis posé la question, est-ce qu'une personne qui aurait envie d'être excitée regarderait ça ? Parce que ça pose, en fait, ça te met dans un état de réflexion. Du coup, je pense pas qu'une personne voulant...
C'est ça, en fait, c'est artistique, mais c'est pas réaliste.
Exactement, oui.
Parce que moi, je me méfie beaucoup quand il y a des gens qui commencent à se permettre de vouloir s'immiscer dans mon désir. Au bout d'un moment, la perversion, c'est pas quelque chose qui est répréhensible tant que ça reste de la consommation, tant que ça reste mon désir et tant que c'est fait. J'ai beaucoup de mal avec l'idée qu'on puisse me policer en me disant tu dois désirer ceci, tu dois désirer cela,
oui,
et pas ceci et pas cela.
C'est subjectif.
Le désir est quelque chose qui est éminemment intime. Je dis pas que. L'intimité, c'est évidemment des sujets de société et il faut s'en emparer, il ne faut pas balayer ça d'un revers de la main, mais fondamentalement voilà, je ne suis pas opposé à l'idée que certains aient une forme de perversité et que ça puisse les exciter, et bah, tant mieux pour eux. Qui sommes-nous pour juger de l'excitation des autres ?
Ouais, c'est tout à fait juste, et après peut-être il faudrait réorienter la question vers pas un féminisme lié à la mise en scène de certaines situations qui pourraient être perçues comme représentation de la male gaze, mais plutôt juste s'assurer que les actrices dans ces scènes soient en sécurité.
Oui.
L'utilisation par exemple de capotes.
Ah ouais, non, mais évidemment qu'il y a des dérives après dans la production de ce porno là. Mais voilà, si tout est bien respecté selon les codes du travail, en soi, pourquoi pas ne pas créer, bah oui, du porno hétéro, basique, un homme, une femme.
Après, qui voulait parler ? Vas-y. Moi, ok. Tu disais que t'aimais pas... On m'entend. Que t'aimais pas être mis dans des carcans quand il s'agissait de ton désir. Mais justement, je trouve que ce qui peut être bien, c'est plus de représentation. Parce que je trouve que... Il y a quelques années sur Pornhub, c'était un peu toujours la même chose. Et il y avait chacun ses kings, chacun ses trucs, mais c'est bien aussi d'avoir des possibilités de porno plus respectueux.
Mais après, quand je consomme du porno, j'ai pas envie d'être un militant, tu vois. Je dis pas oui quand je vais au supermarché, je regarde l'origine des produits, est-ce qu'il y a la belle rouge ou pas. Mais bon, ça va quoi, au bout d'un moment.
Non, mais moi, je pense, je peux intervenir. Moi, je pense que il y a un problème qui est assez assez problématique, un problème assez problématique, assez vaste. C'est le fait que le porno a pris le rôle, nous, quand on a commencé à grandir avec l'adolescence, de nous apprend beaucoup de choses. Le problème avec le porno mainstream, c'est que l'acte sexuel n'est pas réaliste. Enfin, il n'y a personne qui met en capote, il n'y a pas le préservatif. Et ça, c'est un mauvais... Il y a le reflet de ça, en fait, dans la société.
Toute l'importance de l'éducation sexuelle à l'école.
Bah oui, en fait...
voilà, on en parlait dans l'édito.
Bien sûr, c'est très important, mais jusqu'à quand on n'aura pas l'éducation sexuelle à l'école, ça va être le porno qui va nous faire comprendre comment le corps est fait, le désir. Et malheureusement, dans l'industrie du porno aujourd'hui...
Alors, dans l'industrie du porno américain, parce qu'en revanche, en France... C'est obligatoire le préservatif, par exemple.
Dans les scènes, il y a... Ah, d'accord. J'ai jamais consommé du porno français.
Dans la loi française, on est obligé de mettre un préservatif, mais ce n'est pas le cas dans le porno américain, d'accord. Qui est majoritaire.
Depuis toujours ? Enfin, non, toi, tu as grandi avec ça ?
Oui, oui.
Okay.
Je ne sais pas depuis combien de temps exactement, mais oui, ça fait quelques années.
Alors d'accord. Après, le viol, il est aussi interdit dans le porno, et pourtant, il est extrêmement répandu.
Non, mais évidemment qu'il y a des dérives, et elles sont largement condamnables. Hein. Ouais. Mais je connais pas de secteur qui
mais enfin le problème c'est aussi l'objectification de la femme, c'est souvent ça dans le porno en fait mainstream industrie américaine je sais pas mais enfin moi je me souviens j'ai interviewé assez d'étudiantes des femmes à la fac 20 à peu près, et on était toutes d'accord qu'on ne se sentait pas représentées. Il y avait vraiment des scènes dans lesquelles on est un objet du désir sexuel masculin, en fait.
Le porno est destiné aux hommes.
Voilà.
Fait par les hommes.
Et pour les hommes. Ouais. Et moi, je suis sûre que ça arrivait à beaucoup, beaucoup de femmes. Déjà, j'avais plein d'histoires de mes copines et même moi, des garçons qui ne mettent pas de préservatif parce qu'ils ont appris à travers le porno qu'on s'en fout du préservatif, en fait. Et c'est archi grave.
Est-ce que tu penses qu'on devrait du coup interdire le porno aux mineurs faire aux une mineurs. Sorte de loi
enfin, ou... c'est pas que les mineurs, moi, je parle des... Enfin, tout le monde consomme du porno et même t'as 30 ans, tu...
Ça, je pense pas. Durant les années formatrices.
Moi, je pense que l'éducation sexuelle doit être obligatoire, c'est ça.
Et on revient à l'édito.
Et voilà, et vous êtes toujours dans Cours d'honneur de Radio Sorbonne et surtout, vous êtes toujours en hiver. Si à vous aussi, le soleil manque durant ces après-midi pluvieuses de révision acharnée, j'ai la chanson pour vous. Elle ramène pas la chaleur, mais c'est L'été en hiver de Whisper.
J'ai oublié le sommeil, ce n'est pas depuis hier seulement. J'ai entassé les bouteilles et ce été comme hiver. Du calme au son des rivières, ce qui est caché sous les pansements ne date pas d'hier, c'est là été comme hiver, comme mon hiver. Cherche l'air pur dans le jour comme dans le vice, dans l'amour ou entre ses cuisses. Je cherche l'été en hiver.
Spirale au fond de l'évier, une rouge comme un fraisier. Je rayais mes yeux à force de les frotter. Combien de fois j'ai rêvé de la vie. Y'a nada comme Nevada, j'prends des tatas pour le voyage à la Lucien d'Emrata. J'pick up comme des Valda, puis c'est l'alliage, c'est l'été en hiver. Comme quand y'a des fraises dans les hyper, on se met à l'envers comme le monde on glisse. Dans le vide ou entre des cuisses, c'est pareil.
Cherche l'été en hiver.
C'était le retour de This Is après 2 ans de silence dans le nouvel album de Whisper, sorti il y a 2 semaines. C'était l'été en hiver avec Whisper et This Is. C'est quoi être étudiant à la Sorbonne ? Voici la question à laquelle on répond, mais on a besoin d'un peut-être pour ça. Heureusement qu'étudiants et enseignants vont de pair.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Ce soir, nous accueillons dans le studio de Radio Sorbonne Adrien Talent, doctorant en philosophie et enseignant d'éthique numérique à Sorbonne Université. Bonsoir Adrien Talent, merci d'être avec nous.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
Alors, j'ai quelques questions pour vous. Tout d'abord, il y a eu West France, Stephen King et maintenant même la Sorbonne quitte X, qui est l'ancien Twitter. L'élection de Donald Trump, soutenue par Elon Musk, provoque une sorte d'exode du réseau social vers ses concurrents. Est-ce que vous l'avez fait ? Est-ce que pour vous, il faut quitter Twitter ?
Alors, de m'exoder, donc j'ai effectivement créé un compte sur Blue Sky pour suivre un peu, disons, le mouvement général. Et après, oui, à la question de s'il faut quitter Twitter, évidemment, dans l'absolu, sans doute que ce serait mieux. Mais bon, je ne pense pas que ça va arriver, à une échelle suffisante pour que Twitter ferme du jour au lendemain.
Et beaucoup de déçus de X, justement, sont partis sur Blue Sky comme vous, mais trouvent la plateforme trop fade et gardent un plaisir coupable à retourner sur X. La régulation des réseaux sociaux, est-ce qu'elle nuit pas un peu à cette plateforme ?
Du coup, la question, c'est pas tant de est-ce que ça nuit à Twitter ou pas, puisque dans l'absolu, c'est pas réellement, entre guillemets, notre problème. Twitter n'étant ni une entreprise européenne, ni française, et même dans l'absolu, ni étant détenu par des fonds publics. Donc en fait, l'enjeu principal, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut instaurer un cadre juridique, philosophique, éthique pour que ces plateformes numériques qui ont pris une telle place dans la construction de l'espace public aujourd'hui puissent être utilisées, à bon escient, ou du moins pour une forme de bien commun au niveau de la société.
Alors justement, c'était le but premier de la création des réseaux sociaux, c'était faire en sorte de se faire rencontrer les cultures et les gens. Est-ce que pour vous, c'est un peu un rêve qui est dépassé, ou est-ce que, comme vous dites, avec des nouvelles applications, est-ce qu'on pourrait renouveler ça ?
Le truc, c'est que je pense qu'il y a deux points essentiels. Disons que le premier, c'est qu'effectivement, avec l'arrivée d'abord du numérique et ensuite des réseaux sociaux, il y a eu tout un tas de rêves d'une forme d'une utopie, on va dire, d'Internet en premier chef, de se dire, Internet et les réseaux sociaux, ça allait aplatir les organisations, aplatir la société et décentraliser un petit peu décentraliser le pouvoir et que chaque individu ou chaque groupement pourrait détenir, sa propre voix et son propre mode d'expression. Et donc, le truc, c'est de se dire que ce rêve initial, alors effectivement, c'est pas vraiment ce qui se produit aujourd'hui, puisqu'il y a davantage une forme de concentration sur quelques plateformes par lesquelles tout le monde est obligé de passer, qu'on le veuille ou non, et qui appartiennent en gros à une poignée de milliardaires qui, de ce point de vue-là, du coup, gagnent une sorte d'influence hyper importante sur le débat public et sur, la manière dont la société fonctionne. Quelle était la deuxième partie de la question ?
Est-ce que pour vous, c'est un rêve un peu dépassé ? Est-ce que ça va être difficile aujourd'hui de faire en sorte que le but des réseaux sociaux soit de bien amis, quoi ?
En fait, le problème, c'est le fonctionnement même des réseaux sociaux. En fait, presque, quel que soit le propriétaire ou quelles que soient les velléités initiales, en fait, le fait de réduire l'exposition et de réduire les conseils ou les recommandations de contenu à des processus automatisés, donc d'algorithmes, d'intelligence artificielle. En fait, assez mécaniquement, ça fait rentrer chaque opinion ou chaque individu dans un sorte de process un peu infernal qui empêche, je pense, d'une certaine manière, une forme d'expression réellement libre, ou du moins une organisation un peu organique et un peu utopique, ou du moins qui puisse réunir tous les individus d'horizons différents et de cultures différentes.
Alors, on rappelle que le mouvement MeToo et Black Lives Matter sont nés justement sur ces mêmes réseaux. Est-ce que de tels phénomènes seraient impossibles aujourd'hui, ou au contraire, est-ce que ça pourrait se renouveler si besoin ?
Je pense que ça peut se renouveler justement par cette définition même des réseaux sociaux qui permet justement l'expression de tout un chacun. Alors après, est-ce que ce serait plus ou moins possible aujourd'hui ? C'est une bonne question, parce que à la fois, assez régulièrement, en fait, il y a des nouveaux phénomènes. Le phénomène est un mot un peu étonnant pour qualifier ce genre de campagne, mais du moins des vagues de dénonciation ou des vagues de prise de parole qui existe en fait sur tout un tas de sujets et qui émerge sur les réseaux sociaux. Donc ça a été sur les startups, il y a eu sur les agences de pub, il y a eu sur donc MeToo, dans tout un tas de secteurs. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance, il y en a de plus en plus qui sont concernés. Donc je pense que ce genre de mouvement d'émancipation, de mouvement de prise de parole sont toujours possibles. Après, il est évident que plus les propriétaires de réseaux sociaux indiqueront clairement leur couleur politique et essaieront clairement d'influencer le débat politique et même l'élection de certains candidats, bah plus ce sera difficile, évidemment, puisque eux-mêmes ont la main mise sur les algorithmes et sur la manière dont les choses sont en place.
Justement, durant la campagne américaine, tous les regards étaient tournés vers la Pennsylvanie et ses grands électeurs. On se rappelle aussi du scandale Cambridge Analytica en 2016. Et le véritable impact des réseaux sociaux et sur les élections, est-ce qu'il n'est pas un peu exagéré?
Alors, il est en partie exagéré. Il est à la fois exagéré et sous-évalué, dans le sens où il est exagéré parce qu'on a tendance à se dire que, alors oui, en fait, effectivement, bah maintenant, les réseaux sociaux influencent tout et presque il n'y a plus de politique, il n'y a plus besoin. Et en fait, en réalité, on voit plein de mouvements politiques qui entretiennent une forme de, disons, de politique à l'ancienne, ou du moins qui entretiennent des mécanismes qui existaient déjà dans les réseaux sociaux et qui continuent encore d'exister. Après, il est vrai que, quoi qu'il arrive, les réseaux sociaux, ils ont changé la manière de faire de la politique, ou tout simplement, ils ont changé la manière de se mobiliser. En fait, de plus en plus, aujourd'hui, il y a des mobilisations qui passent ou qui s'organisent exclusivement via les réseaux sociaux. On peut penser, pour beaucoup, les printemps arabes, ils ont été organisés ou du moins lancés sur les réseaux sociaux, les gilets jaunes. De plus en plus de grèves ou de manifestations ne passent plus par, disons, des relais de pouvoir classiques type syndicats ou partis politiques, mais s'organisent un peu d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un peu la manière dont ça a un peu déstructuré, on va dire, le pouvoir au sein de la société. La manière dont c'est quand même sous-estimé, c'est justement l'impact des fake news, des informations, ou du moins du fait que les individus, les citoyens ou les électeurs s'informent de plus en plus via les réseaux sociaux et interagissent surtout via les réseaux sociaux. Et en fait, en réalité, je pense que tout un tas de régulations aujourd'hui, on a l'impression de pouvoir garder une forme de contrôle, une forme de main sur la désinformation, sur le contrôle politique, sur les réseaux sociaux. Mais en fait, en réalité, on n'est pas assez préparé, nos sociétés, je pense, à en fait une arrivée à ce point-là massive de contenu, de fake news, de désinformation totale, qui en fait bouleverse, quoi qu'il arrive, les élections, puisque quoi qu'il arrive, la régulation ou la réaction, comme son nom l'indique, est en réaction et donc sera sans doute un peu tard, ou du moins après des résultats d'élections potentiellement, influencés.
Alors de ce fait, les réseaux sociaux, ils sont un peu un miroir de notre société, non ?
Disons qu'ils sont un miroir déformant, puisque évidemment, c'est pas notre société qui est telle qu'elle représentée. Les réseaux sociaux, étant donné leur fonctionnement algorithmique, poussent une forme de polarisation, ou du moins mettre en avant des opinions très contradictoires qui s'affrontent assez violemment. Et c'est surtout que les personnes qui s'expriment sur les réseaux sociaux, en fait, sont justement en grande partie des personnes les plus politisées ou les plus extrêmes. Et en fait, comme les algorithmes sont faits de telle manière que plus on réagit avec un contenu, plus ce contenu est mis en avant et présenté à d'autres personnes, en fait, assez mécaniquement, plus ce sont les fake news, ou du moins les informations sensationnalistes qui sont mises en avant. Et surtout, au-delà d'être un miroir de notre société, c'est aussi un miroir déformant, puisque c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de campagnes d'influence issues de groupements non présents sur le territoire français, par exemple. On a vu dans l'actualité tous les cas avec les campagnes de désinformation issues de la Russie de Vladimir Poutine pour justement tenter de déstabiliser des élections, déstabiliser des sociétés à un moment dans des moments de tension.
Justement, c'est un peu une forme de propagande. Dans ce cas, qui nous manipule sur les réseaux sociaux ? Est-ce que ce serait plutôt des puissances étrangères ou de simples militants ?
Alors, l'idée est évidemment pas d'aller jusque dans une forme de théorie du complot de « nous sommes tous manipulés par des gens sur les réseaux sociaux ». Disons que la manipulation, en fait, c'est une forme de manipulation assez douce, dans le sens où même nous-mêmes, on s'auto-manipule par en fait nos propres biais et les choses qu'on cherche sur les réseaux sociaux, et surtout les confirmations qu'on recherche sur les réseaux sociaux. Et après, il est évident qu'il y a tout un tas d'influences qui arrivent sur les réseaux sociaux, donc type les puissances étrangères, disons des groupements idéologiques, des partis politiques, des associations, des gens qui, disons, des gens qui cherchent quelque chose et qui ont une volonté. Et cette volonté s'exprime au travers de réseaux sociaux, mais même de la technologie au sens très large, puisque l'intelligence artificielle également, disons, tout un tas de produits ou de solutions technologiques qu'on utilise aujourd'hui sont issus d'une idée, de différentes idéologies ou de, disons, idéologies, disons, ça c'est la face active, ou du moins de différents biais conscients ou inconscients des sociétés et des individus qui les façonnent.
Alors j'ai une dernière question pour vous. Que représente la Sorbonne pour vous ?
Que représente la Sorbonne ? Alors, la Sorbonne, alors disons, dans l'actualité politique, on dirait que la Sorbonne est, disons, est une institution en danger, étant donné les problèmes de financement structurel des universités françaises et de l'enseignement supérieur au sens large. Mais après, des endroits comme la Sorbonne, je pense que c'est des endroits des sortes de safe space d'une certaine manière, où on peut continuer à, enfin, du moins on peut promouvoir une forme d'éducation et de recul critique, de formation d'esprit critique qui, je pense, sont plus que nécessaires aujourd'hui dans notre monde.
Merci beaucoup. Merci Adrien Talland d'être venu dans le studio de Radio Sorbonne. Je rappelle que vous êtes doctorant en philosophie au laboratoire Sciences, Normes, Démocratie de Sorbonne Université, enseignant en éthique du numérique de l'IA à l'ISIS de Paris Panthéon Assas. Je donne vos dernières publications. La tribune chez nos confrères du quotidien Le Monde, la transformation des réseaux sociaux en arène électorale, ou encore dans la revue Esprit, l'intelligence artificielle serait-elle woke ? Merci, à bientôt.
Merci.
Pour beaucoup d'étudiants, l'intelligence artificielle, c'est le bonheur, ChatGPT le nouveau bestie, et Cours d'honneur, c'est quoi ? Paradis, d'Alyosha Schneider.
J'ai peur, je me casse au soleil. J'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. On ira là où il fait chaud, chaud, chaud. Dans tes cheveux des coquelicots. La mer au reflet opiacé. Coquillages et crustacés. Viens, on met les voiles. Prends le large. Je connais un endroit sauvage qui ressemble un peu au paradis.
C'était Paradis d'Alyosha Schneider. Ça donne envie de partir en vacances, non ? Pas encore, pas encore. Alors en attendant, on s'échappe avec le meilleur art qui soit pour nous faire voyager, le cinéma. Tout de suite, place au bon plan sur Radio Sorbonne.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez la vedette, top table !
Pour la chronique débrouille, Alice, aujourd'hui, tu vas nous parler cinéma avec une sélection aux petits oignons des 5 films à foncer voir de toute urgence en ce moment. Allez, dis-nous tout, conseille-nous.
Et oui, chers auditeurs, cette chronique débrouille s'adresse aujourd'hui aux amateurs du grand écran, et ouais, grand écran parmi vous, mais aussi à tous ceux qui souhaiteraient s'évader le temps d'un après-midi pluvieux de fin d'automne. J'ai sélectionné pour vous 5 films qui m'ont fait de l'œil et que je vais me presser d'aller voir le plus vite possible, maintenant que mes poches sont un peu renflouées en ce début du mois. Pour ma part, dans le MK2 le plus proche, car un billet à 5,90€ pour les étudiants, ça ne se refuse pas. On commence fort avec la nouvelle référence des amateurs de gore, de choquant, de folie, saupoudrée d'intelligence, j'annonce The Substance. Un film qui s'interroge, et qui vous interrogera aussi au passage, sur les normes esthétiques pesantes et l'acceptation de soi, notamment quand on est une femme. Ce film innovant vous fera frissonner et aussi réfléchir, mais il ne vous ennuiera certainement pas. Toutefois, attention aux plus sensibles qui pourraient tourner de l'œil face au passage de body horror. Et dans un style complètement opposé, l'histoire de Suleiman fait beaucoup parler de lui. Plus qu'un film, une rencontre qui te laisse sans voix et qui te fera peut-être même sortir tes mouchoirs à la fin de la séance. Car pendant 93 minutes, on suit Suleiman, 25 ans, livreur de repas Uber Eats à vélo, et l'anxiété liée à l'entretien de sa demande d'asile en parallèle. Ce film est sans musique, de quoi te plonger de façon encore plus profonde et réaliste dans la vie poignante de ce jeune homme. Vous êtes donc prévenus, émotion au rendez-vous, chers auditeurs. Dans la catégorie mascara qui coule ou non, t'inquiète, j'ai une poussière dans l'œil, je suis un bonhomme, on a également le film d'animation La plus précieuse des marchandises. L'histoire d'un couple de bûcherons miséreux qui, en plein hiver, trouvent dans le bois près de chez eux un bébé jeté du train et qui s'apprête à bouleverser leur vie et la vie des autres personnages qui croiseront son chemin. Il bouleversera aussi peut-être votre soirée si vous optez pour ce conte touchant sur la nature humaine. Un autre film d'animation qui se fait remarquer en ce moment, Flo, au graphisme tout droit sorti d'un jeu vidéo, on suit le périple d'un petit chat noir et solitaire qui se trouve obligé de s'allier à plusieurs autres animaux pour survivre à une montée des eaux mystérieuses dans un monde où il n'y a plus d'hommes. Avec mes amis, on a beaucoup aimé, le film est reposant de par ses couleurs douces, ses graphismes fluides, ses paysages apaisants, le mystère qui l'englobe aussi, mais aussi car il n'y a aucun dialogue. Donc foncez découvrir Flo au cinéma, c'est le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Enfin, pour conclure, pour tirer le rideau de fin de cette chronique débrouille avec panache, je vous propose justement Aznavour, qui, comme son nom l'indique, retrace le biopic du célèbre chanteur français de renommée internationale. Et oui, vous l'avez deviné, je parle de Patrick Sébastien. Mais non, mais non, je farce. Même si je sais qu'on attend tous son biopic. Non. Dans ce film, c'est le très célèbre Charles Aznavour, du coup, qui est mis à l'honneur avec brio par le talentueux acteur Tahar Rahim, qui a même réussi à impressionner et émouvoir la propre fille d'Aznavour, Katia. Si ce n'est pas la meilleure des preuves de qualité de ce film. Donc plus d'excuses, chers auditeurs, je vais vous entendre commencer à faire chauffer vos cartes bleues d'ici. Allez, j'attends. Et j'insiste, vous ressortirez du cinéma un peu moins riche du portefeuille, mais un peu plus riche du cœur, avec toutes ces émotions différentes, et ça ne s'achète pas.
Merci Alice. Alors attendez un peu avant d'aller au cinéma, restez encore un peu avec nous, c'est pas fini. Alors, après Nelly Bly, mère du journaliste d'immersion, il y a eu Martha Gellhorn, correspondante de Guerre Illustre, puis Florence Aubenas, grand reporter, et aujourd'hui, Shirine, chroniqueuse, célèbre sur Cours d'honneur. Tout de suite, le reportage.
C'est sans doute l'une des informations les plus capitales de ces dernières années.
Il est 20h, Moustique arrive à son bureau, et là, c'est le drame.
Le 23 novembre dernier avait lieu la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles à Paris. La même semaine, le procès Pellicot entrait dans sa dernière ligne droite. Shirine est allée à la rencontre des manifestants afin de recueillir leurs réactions face à cette affaire qui a profondément marqué l'actualité des derniers mois.
Est-ce que tu lui as demandé si elle était consentante ? Quand on reproche, c'est pas que d'être des violeurs, c'est de rien dire, de jamais rien dire.
Nous sommes le 23
23 novembre, place de la Bastille. Le procès de l'affaire Mazan touche à sa fin à quelques kilomètres d'ici. Ce procès permettra-t-il à la société de changer de regard sur le viol, comme l'espère la victime Gisèle Pellicot? Nous avons posé la question aux manifestants et manifestantes de la marche Nous Toutes à Paris.
J'espère que ça va changer les choses. Je pense que MeToo a changé les choses et j'espère que ça va participer aussi en tout cas à changer les choses en France. Mais on voit qu'on a tendance des fois à avoir un peu des backlash et justement on a l'impression en ce moment avec la montée du fascisme qu'on redescend sur ces luttes-là, donc c'est un peu déprimant quand même.
Ce qui fait différence, c'est qu'on essaie souvent de trouver des justifications enfin dans les médias et on remet en parole la parole des femmes quand elles portent plainte. Et là, pour le coup, bah, en fait, Madame Pellicot, c'est un peu triste comme terme, mais c'est la victime parfaite. Je pense que c'est nécessaire qu'il y ait une prise de conscience du côté des hommes aussi et qu'ils s'engagent à nos côtés parce que clairement, on ne le fera pas toute seule. Déjà, c'est de la lumière sur ce procès où ça, on se rend compte que c'est Monsieur Tout-le-Monde qui est un violeur au final.
Globalement, le fait de dire il n'a pas le profil ou c'est pas son genre, ça devrait être des termes qu'on n'entend plus pour parler dans le cas des agressions.
Ce que je trouve impressionnant, c'est que du coup, ça regroupe un ensemble d'hommes qui viennent de toutes les classes sociales, de manière très diversifiée. Et du coup, bah, toutes les personnes qui discréditent les luttes féministes en disant not all men à longueur de temps et qui nous disent bah, c'est pas tous les hommes, c'est pas tous les hommes, là, on se rend compte que c'est des dizaines d'hommes, voire des centaines sur une seule affaire. Je pense que c'est important qu'on prenne conscience que voilà, tous les hommes sont un peu des violeurs en puissance par rapport au fait qu'ils aient baigné dans la culture patriarcale depuis leur naissance, etc.
Je pense que ça montre surtout les déboires de la société, les vices que n'importe qui peut avoir, et même au sein d'un couple, en fait, il n'y a pas de sécurité, quoi.
Une affaire médiatisée comme celle-ci, on n'a pas eu beaucoup, et elle a tellement fait parler d'elle, de par les horreurs que cette femme elle a subies, que je pense que ça a vachement sensibilisé les gens sur le viol conjugal, il existe vraiment, et il peut être partout, quoi.
On ne va jamais pouvoir comprendre ce qu'elles vivent dans leur vie quotidien, mais on peut aussi, du coup, remettre en question ce que nous, on fait dans nos actions quotidiennes, que ce soit dans la vie familiale, au travail, en soirée avec les potes, alcool ou pas alcool.
En fait, ça a permis de montrer à grande échelle, même à l'international, la diversité des profils que sont les violeurs. C'est souvent les personnes qu'on côtoie au quotidien et pas forcément un inconnu.
Les hommes vont pouvoir prendre conscience que justement le violeur, c'est comme les pancartes le disent, leur père, leur frère, leur voisin, leur oncle, etc. Leur pote surtout. Le fait de faire comprendre que les violeurs, c'est pas des monstres qui seraient cachés dans les parkings.
Sur les pancartes, on peut dire mon corps, mon choix, mes droits.
Plainte ou pas, je te crois. On supportera toujours du côté des victimes. C'est hyper important de soutenir les victimes avant tout.
Un consentement libre, éclairé, réversible et spécifique.
Pas de féminisme sans adelphité. L'adelphité, ça vient du grec qui vient de la même eau, donc qui vient du même utérus. C'est l'équivalent de mot anglais sibling, qui veut dire frère ou sœur non genré. Donc l'adelphité, c'est le mix de la sororité et la fraternité.
Il faut qu'il y ait des hommes qui prêtent main forte également, juste pour montrer que c'est pas les femmes contre les hommes, il faut aussi que les hommes se rebellent contre les hommes problématiques justement.
Mais on peut accompagner celles qui luttent, de se remettre en question surtout dans notre éducation et dans ce que la culture nous apporte.
On peut pas faire ça à 55% quoi, il nous faut une majorité absolue pour faire une révolution.
L'affaire Pellicot aura entraîné une vague de solidarité, mais elle aura par-dessus tout suscité une prise de conscience vis-à-vis de la culture du viol qui pèse lourdement et injustement sur la société.
C'était un reportage plus qu'excellent signé Chirine à Cour d'honneur. Je vous annonce d'ailleurs que le verdict du procès est attendu avant le 20 décembre. Et oui, on l'attend avec plus d'impatience que Noël. Elle s'immerge dans la pop française depuis peu et pourtant, elle y va vite trouver sa place. Son premier album, Carousel, est sorti il y a 2 ans et elle ne cesse de sortir des singles depuis. Besoin de validation, besoin d'amour, Faut que tu m'aimes de Stiletto.
Faut que tu m'aimes, car moi toute seule, j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, faut que tu la trouves jolie ma voix et mes poèmes. Quand même, faut que tu m'aimes, faut que tu gardes ta main dans la mienne quand je suis blême. Dis-moi que ça va le faire et qu'il y aura pas de problème, que la lune est pleine. Pourquoi j'ai toujours besoin qu'on me valide, qu'on me trouve sympa, qu'on me trouve sublime. J'ai peur des avis, des cœurs qui s'abîment, de plus être dans le coup. J'ai peur de plus être la même, que tu me jettes pour la prochaine venue, que je sois plus qu'une inconnue. faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, sinon je perds pied. J'sais plus où aller, ni comment je m'appelle. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, c'est n'importe quoi. Faut que tu m'aimes plus fort que moi-même. Plus fort que moi-même. Faut que tu crois plus en moi-même que moi. Faut que tu m'aimes, sinon j'ai le cœur qui est pas tranquille. Faut que tu m'aimes, quand je sais même plus comment je m'habille, comment je m'anime, que j'hiberne. Faut que tu m'aimes, quand je crois plus à ce que je fais. Faut que tu m'aimes, quand j'ai l'impression de tout rater. Faut que tu m'aides, quand je me sens comme une merde. J'ai peur de plus être la même, que tu me jettes pour la prochaine venue, que je sois plus qu'une inconnue. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, sinon je perds pied. Je sais plus où aller, ni comment je m'appelle. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, c'est n'importe quoi. Faut que tu crois plus en moi-même que moi. Pourquoi je remarque que les pouces en bas, les mauvais démons? Pourquoi j'entends pas bien quand tu dis c'est bon? Pourquoi j'entends c'est nul quand tu dis c'est super? Pourquoi j'attends toujours l'autorisation? Pourquoi y a pas de confiance dans ma maison? Pourquoi je cherche toujours à plaire? Dis-moi que toi aussi t'es comme ça. Toi aussi t'es comme ça. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, sinon je perds pied. Je sais plus où aller, ni comment je m'appelle. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, c'est n'importe quoi. Faut que tu m'aimes plus fort que moi-même. Plus fort que moi-même. Faut que tu crois plus en moi-même que moi.
C'était Faut que tu m'aimes par Stiletto en version miel, c'est-à-dire version pour chialer. Voilà, c'est fun. Vous écoutez toujours Radio Sorbonne sur Radio Campus et même entre deux satsangs, on répond à la question « C'est quoi être étudiant à la Sorbonne ?» Pour se donner de l'espoir et de la motivation entre deux examens ratés, on raconte la vie des personnes illustres de la Sorbonne, peut-être vous bientôt. C'est l'heure de Sorbonne en personne.
On prend la direction de la Sorbonne en personne.
Ce soir, nous vous parlons d'un ancien étudiant de la Sorbonne, ni très studieux, ni très assidu, mais devenu l'un des plus grands noms du cinéma. Il a révolutionné la réalisation dans les années 60 avec Truffaut, Chabrol ou Romer et continue d'inspirer les réalisateurs à travers le monde. On connaît tous son nom, associé à la Nouvelle Vague. On connaît tous plus ou moins ses films et pourtant, on connaît très mal l'homme. Ce soir, Aurélie vous parle de Godard.
Eh oui, Swan, donc tout commence à Paris en 1930, dans le 7e arrondissement. Il est le second d'une fratrie de quatre. Son père est médecin entre Paris et la Suisse. Sa mère est issue d'une grande famille protestante française. Petit fait notable, son grand-père maternel est l'un des fondateurs de la Banque de Paris et des Pays-Bas et fréquentait des écrivains, toujours un plus. Voilà donc notre Godard qui grandit en Suisse. Il a une enfance sportive sur fond de protestantisme. Il aime la peinture, ça devient une passion. On l'envoie ensuite à Paris pour le bac alors que ses parents divorcent. Petite anecdote étrange d'ailleurs sur le personnage, il s'était mis à voler. Voilà, donc il devient le mouton noir de sa famille. Il vole des ouvrages de Paul Valéry dans la bibliothèque de son grand-père et les revend. Bon, marrant. Et le voilà donc débarqué rue d'Assas avec un intérêt faiblissant pour les études. Il rate d'ailleurs deux fois son bac. À cette période, Godard commence donc à fréquenter le Paris des cinémas. D'ailleurs, comment aurait-il pu être mieux placé que dans le 5e de Paris? Et son cœur balance entre la peinture, la littérature et le cinéma. Il a 19 ans, il va rédiger son premier scénario et s'inscrit à la Sorbonne. Bon, il n'est pas très studieux comme on a dit, il s'inscrit en anthropologie et ça ne dure pas très longtemps. Mais il va faire des rencontres intéressantes qui vont lui permettre ensuite de faire des collaborations pour ses futurs films. En fait, il va s'abreuver de cinéma, il fréquente le ciné-club du quartier latin. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il rencontre Truffaut et Chabrol. Il s'exerce comme critique cinéma petit à petit et dans la revue de ce petit groupe qui devient la Gazette de la Sorbonne. La Gazette du cinéma. Et nous sommes déjà dans les années 50. Les années 50 déversent un torrent de nouveautés sur le cinéma mondial avec deux films fondateurs. En 59, il va y avoir Les 400 coups de François Truffaut qui remporte un grand succès. Et Godard va se mettre donc à tourner des longs métrages dans la suite de Truffaut. Il va réaliser du coup À bout de souffle avec Jean-Paul Belmondo et Jeanne Saberg en 1960. Le film devient culte et achève de lancer la nouvelle vague dans le cinéma français.
Est-ce que tu m'accompagnes, Aaron ? Oui, c'est idiot, je t'aime. Je voulais te revoir pour savoir si te revoir me ferait plaisir.
Vous venez d'où ? Monte Carlo ?
Non, de Marseille. Il faut que je te voie, toi.
Non, il ne faut pas.
Pourquoi ?
Il y a beaucoup de filles à Paris plus jolies que moi.
Non, c'est drôle. J'ai couché avec deux filles depuis qu'on s'est vues. Eh bien, ça gazait absolument pas.
Gazé, qu'est-ce que c'est ?
Elles étaient très jolies, mais ça gazait pas, ça marchait pas, c'était triste. Alors tu peux venir à Rome ? Moi j'en ai marre de la France.
Mais je ne peux pas, Michel. Je dois m'inscrire à la Sorbonne.
Alors on peut s'attendre à une histoire folle et incroyable, mais en fait rien de tout ça. Le film s'inspire d'un petit fait réel et c'est un jeune voyou marseillais qui va quitter Paris et qui tue un policier entre-temps. Voilà, donc il veut s'enfuir à Rome avec une étudiante américaine. Mais là où le film percute, en fait, c'est dans son style, puisque Godard, qui a arpenté le quartier latin de long en large, en fait, s'approprie vraiment Paris, la ville, en fait, comme jamais. Et du coup, c'est très, très vivant, c'est très spontané et ça contraste radicalement avec le cinéma de studio beaucoup, beaucoup plus conventionnel d'avant.
Pourquoi est-ce que tu ne m'aimes plus ?
C'est la vie.
Pourquoi est-ce que tu me méprises ?
Ça, je te le dirai jamais. Même si je devais mourir.
Voilà, donc dans Le Mépris, justement, où Michel Piccoli donne la réplique à Bardot, ça se passe vraiment sur l'univers du cinéma. Et pareil, en fait, les scénarios vont être de moins en moins littéraires et vont laisser de plus en plus la place à un naturel, voire même en rajouter une deuxième et une troisième couche.
Merde. Nom de Dieu. Piège à con. Saloperie.
En 65, ensuite, Godard va réaliser Pierrot le Fou, qui est aussi un de ses films marquants et qui continue de marquer du coup l'histoire du cinéma, qui est toujours tourné dans la rue et avec peu de budget et toujours plein d'idées, donc c'est aussi un de ses films emblématiques. En 68, par contre, il va un petit peu changer de cap. Il est déjà devenu un cinéaste de première importance et il va se radicaliser en fait politiquement et il change, il tente un cinéma politique. Il va filmer d'ailleurs les éléments de mai 68, donc c'est un petit changement dans sa carrière. Mais en fait, du coup, voilà, Godard nous laisse plus d'une trentaine de films quand même, avec d'autres, plein de titres que j'ai pas cités. Il y a Le Petit Soldat, Les Carabiniers, Bande à part et tant d'autres. On dit de lui, en fait, qu'on fait une école de cinéma rien qu'en regardant ses films. Mais donc, en fait, pourquoi ? Alors apparemment, parce qu'il nous laisse un cinéma qui est très expérimental, qui est à chaque fois en re-questionnement, qui a mis chemin entre les arts plastiques, mais aussi le cinéma et la musique. Donc un cinéma quand même qui est très varié et très complet. Et aussi, il ne s'est jamais arrêté, puisqu'il nous présente à Cannes encore en 2018, donc 4 ans avant sa mort, son tout dernier film, Le Livre d'images, qui va être récompensé d'ailleurs par une palme d'or spéciale pour son film et pour l'ensemble de son œuvre. Voilà, donc pour ma part, j'ai quand même découvert plus en profondeur Godard, donc ce monstre sacré en m'y penchant pour ce soir. Mais donc c'était quand même un homme, qui nous a quittés du coup à 91 ans en 2022, qui était peu friand de caméra, mais un très grand passionné de son art.
Merci Aurélie, ça c'en est un dont on devrait s'inspirer. Fun fact d'ailleurs, aujourd'hui il aurait eu 94 ans, RIP. Vous êtes toujours dans Cours d'honneur sur Radio Campus Paris et bientôt peut-être que vous aussi recevrez le César d'honneur comme notre cher Jean-Luc Godard à la 23e cérémonie des Césars. Mais avant de parler d'amour, il faut le vivre. On parle donc de la vie étudiante à la Sorbonne, des sentiments qui s'y nouent au détour des couloirs et des amphis dans le Sorbonne in Love.
Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Everybody's gonna love today,
gonna love today, gonna love today. La maison s'éveille, c'est un nouveau jour.
C'est un nouveau monde. Moi j'ai besoin de poésie dans ma vie, et d'aventure, et d'amour. Love, love me, love,
love. L'amour. J'adore l'amour.
Celle-ci est une histoire d'amour qui ne tarde pas à démarrer.
Entre Sarah et Guillaume, en effet, l'étincelle s'est allumée dès la première année de leur licence. Guillaume a 17 ans, originaire de Bordeaux. Sarah a 19 ans, originaire de Savoie. Les deux jeunes arrivent à Paris pour étudier en double licence d'archéologie et géographie. Spoiler, ils sont dans la même promo. Entre un verre au bar et une visite au musée, ils tombent amoureux et commencent leur aventure ici même, parmi les bancs de la Sorbonne, il y a environ 7 mois. Comment conjuguer leur relation avec le fait d'être collègue à l'université, me direz-vous? Eh bien, il est temps de les laisser nous le dire en direct. À vous la parole, Sarah et Guillaume.
Je m'appelle Guillaume, je suis étudiant en double licence d'archéologie et de géographie et j'ai 17 ans.
Je m'appelle Sarah, j'ai 19 ans et je suis en bilicence archéo-géo.
Je viens de Bordeaux. Sarah, elle vient de Savoie.
J'ai rencontré Guillaume lors d'une soirée qu'on a fait avec les personnes de notre promo. Donc, on est 20 dans notre promo et donc on s'est dit qu'on allait aller un soir boire un verre. Et donc, c'est là qu'on a commencé à discuter. Et après, on est allé marcher tous ensemble, du coup, à côté du Panthéon.
On s'est rencontrés à la fac, puisqu'on est dans la même promo. Et donc, le premier souvenir que j'ai avec elle, c'est qu'on était sortis avec un peu toute notre promo double licence. On était allés dans un bar et après, on s'était parlé la soirée.
J'étais assise sur le banc parce que j'avais froid et il s'est assis à côté de moi. Et on a commencé à discuter et depuis, on n'a jamais arrêté de parler. On peut dire qu'on était amis, on parlait tout le temps, on faisait des sorties, enfin des balades ensemble, on allait au musée.
Au début, genre, on était juste potes, je dirais comme ça. Et après, avec les mois qui passent, on a commencé à se mettre à côté en amphi, à parler un peu plus. Et après, on s'est mis ensemble au bout d'un moment.
Et puis, c'était sympa parce que... On peut parler de tout avec Guillaume, il connaît plein de choses et il n'y a jamais de vide. Comme on fait la même chose, on a de nombreux points communs et de centres d'intérêt communs, on s'intéresse aux mêmes choses, donc c'est sympa.
Après on a des styles de révision assez différents, mais on essaie de réviser un peu ensemble, ça peut nous aider quand même.
Pour les partiels de mai, on a révisé ensemble. Parfois, on fait des travaux de groupe ensemble, mais c'est tout.
Tout ce qui est de se passer les cours, on le fait quand l'un est malade ou qu'il ne peut pas venir, tout ça. Mais sinon, on travaille tous les deux. Est-ce que le fait de s'être rencontré à la fac, ça joue quelque chose? Je pense que oui, dans la mesure où on était souvent ensemble en cours et tout. Je pense que ça a joué, oui. On serait peut-être pas ensemble s'il n'y avait pas eu la Sorbonne, je pense.
C'est bien, on peut se voir tous les jours et c'est chouette, on n'a pas de distance, on peut se voir quand on veut et puis si on n'a pas envie de se voir, le soir on rentre chez nous et on se retrouve le lendemain.
Ah là là, que du love, que du love, que du love. Et l'épisode 6 de la 4e saison de Cours d'honneur, c'est déjà fini. Mais ne soyez pas trop tristes, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Radio Sorbonne Université existe sur Instagram, sur les plateformes de podcast et dans ta fac aussi. Merci à notre fine équipe qui était avec Alice.
Et oui, je vous dis au revoir, chers auditeurs, je n'ai pas plus d'inspiration que ça.
Ciao Aurélie aussi.
Merci, au revoir.
Lavinia.
Merci à toi, Swan, pour avoir animé cette première émission. Très très bien, et merci à nos auditeurs.
Et oui, bravo à Swan.
Bravo Swan.
Bravo génial.
Bravo.
Bravo à moi.
Bravo.
Goodbye, ciao, brava. Ciao Maria Florencia.
Ciao, ciao, buonanotte a tutti. Ciao, ciao, ciao.
Et ciao Chérie.
Ciao, buenas noches. Bachi, bachi.
Et merci Thomas le muet.
Et oui, merci à vous, bravo, bravo Swan. Bravo à la première, je suis très content de plus bosser aujourd'hui.
Bravo Swan.
Et merci. Et merci surtout au service culturel quand même pour son soutien et Radio Campus Paris pour le partenariat. On se retrouve dans 2 semaines, j'espère que léger changement de voix vous aura plu, sinon je tenterai d'imiter Thomas. Et si vous ne pouvez pas attendre les longs jours qui nous séparent de la prochaine émission, allez écouter Sage Gosse sur Radio Sorbonne. C'est une nouvelle rubrique mais pas une nouvelle équipe, ce sont les élèves qui ont dépassé le maître, les sages des sales gosses. D'ici là, prenez soin de vous, bisous, ciao.
Retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, qui pec, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est
la cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ah, ça va tout changer parce qu'en plus, j'habite à Paris. J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était dans sa chambre, sur son lit.
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.